6h01, mercredi 1er avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, coup d'œil sur les prévisions météo. Ce matin, c'est autour de 0 degré. Avec un ciel dégagé, on prévoit quand même de bons moments ensoleillés. Il y aura des nuages aussi. Les vents sont légers, le maximum prévu. 4 degrés. Demain, jeudi, ça se couvre le matin. Maximum prévu 7 degrés. Et la pluie, pas en forte quantité, va commencer au cours de la soirée. Ça va se poursuivre possiblement durant la nuit. Vendredi, on va terminer la semaine avec de la pluie intermittente autour de 9 degrés. L'aperçu pour le week-end, samedi, ça demeure très beau, là. Soleil, nuage autour de 9-10 degrés. Dimanche, un peu plus nuageux et quelques averses probablement, mais pas comparable à dimanche passé, en tout cas selon l'état des prévisions actuellement. Alors que pour le début de la semaine prochaine, on prévoit du temps ensoleillé, 14 degrés pour lundi et mardi. D'abord, un mot pour vous remercier de vos courriels après avoir entendu le montage qu'on a préparé, que Richard a fait, pour dire merci à l'ensemble des intervenants de première ligne. Et là, je ne veux pas nommer personne parce que j'inclus évidemment tout le monde et les catégories d'emploi sont assez nombreuses. Parmi les courriels reçus, il y a une infirmière qui me dit, et je pense que ça traduit très bien l'état d'esprit, « Je suis infirmière, je me prépare pour ma journée au triage. J'ai le cœur gros, la peur au ventre. Il commence à manquer de plumes à l'ange du réseau, pourvu que je ne me transforme pas en ange de la contamination et de la propagation. Je fais mon maximum chaque jour. » C'est pas mal ça, l'état d'esprit. Et on comprend, puis savez-vous quoi? C'est assez normal d'être craintif, craintive, d'avoir peur. Parce que c'est un ennemi, on le dit depuis le début, qui est invisible. Et on va regarder les faits ce matin, c'est toujours important. Au Québec, 31 morts, 4162 cas confirmés, forte augmentation hier, 286 patients donc hospitalisés et 82 aux soins intensifs. Le fait qu'on a 82 patients aux soins intensifs est, je dirais, une bonne nouvelle dans la mesure où c'est ça qui est le problème le plus criant. C'est-à-dire, et c'est ça que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre. Il y a combien de personnes qui m'écrivent en me disant « Ouais, mais regardez, là, c'est pas si grave que ça, le coronavirus, dans la mesure où 85 % des gens s'en sortent sans même avoir à passer une journée au lit, tu sais, à peine quelques petits symptômes, puis que bref, on n'a pas besoin d'être hospitalisé. » Je comprends que le virus, c'est pas une arme qui tue sur le coup. La réalité, c'est la pression que ça exerce sur notre système de santé et sur l'ensemble des systèmes de santé. Si vous regardez à travers le monde, là, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en France, je regardais encore ce matin les chiffres qui sont rendus publics, là, et vous avez des augmentations spectaculaires de cas en Espagne. Okay. Selon les dépêches, là, on est rendu à presque 9000 morts en Espagne et 864 décès en l'espace de 24 heures confirmés. Donc, la réalité ce matin, là, c'est évidemment la pression sur le réseau de la santé et l'heure des choix. L'idée, ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas d'être alarmiste, c'est de vous donner le portrait qui est juste. Le premier ministre a dit hier, on a des stocks pour 3 à 7 jours. Les gens du réseau à qui je parle, des médecins et d'autres, pensent que de façon réaliste, c'est davantage 3 jours, 4 jours que 7 jours. Ça nous amène à vendredi. Mais c'est clair qu'au début de la semaine prochaine, là, s'il n'y a pas approvisionnement, là, on va avoir des problèmes. On a déjà des problèmes. Et on est en train... On a vu hier l'annonce là, avec l'Ontario, en fait, la mise en commun de ressources venant de l'industrie manufacturière en Ontario. Il y a des entreprises au Québec qui sont en train de transformer leur chaîne de production. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Tristan, entre autres, je voyais ça hier, là, qui transforme l'usine, la chaîne de montage, ont obtenu les approbations de Santé Canada, puis il y a d'autres entreprises qui vont le faire aussi. Mais c'est clair que le problème numéro un, c'est celui-là. est-ce qu'on va être capable d'équiper adéquatement les anges gardiens du réseau? Et c'est ça le point d'interrogation. Je vous donne quelques exemples. Plusieurs me disent, puis on le savait, ce que dans les hôpitaux, on ne fait actuellement que les opérations prioritaires, vitales, urgentes. Conséquence, plein de gens se sont fait appeler pour dire que l'intervention était reportée. Et dans certains cas, les opérations reportées, ce sont des opérations de cancer. Les médecins vous diront, c'est peut-être pas super urgent, mais il ne faudrait pas non plus trop que ça tarde. Il y a des traitements aussi importants qui ont été repoussés. Certains blocs opératoires qui se mettent en mode week-end. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on fait que les cas très, très urgents. Des directives pour vous montrer la gestion des masques et du matériel de protection. Pour les médecins, les chirurgiens qui travaillent ce qu'on appelle dans la zone des voies respiratoires, la zone pulmonaire, je pense à des ORL et d'autres spécialités, parce qu'on est en contact avec des patients potentiellement donc positifs, c'est la protection adéquate et parfaite, en mesure où cette protection-là peut être parfaite. Pour d'autres types de médecins qui opèrent dans des zones du corps, foie, pancréas ou autre, ben un, on ne teste plus les patients et on considère qu'une fois que le patient est intubé par l'anesthésiste, il n'y a pas de danger ou il y a moins de danger. Quand je vous dis qu'on fait des choix et qu'on gère le risque, c'est ça qui se passe. Et on peut très bien comprendre la peur, l'anxiété de tous les intervenants du réseau de la santé. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de tests alors qu'on les faisait avant? Certains pensent que ce n'est pas utile. Mais je rappelle que dans un hôpital, là, quand tu es médecin, infirmière, préposé, tu ne peux pas garder une distance de 2 mètres avec le patient. Là. Donc, il n'y a pas, avant qu'on opère, là, alors que ça se faisait avant, on n'a pas actuellement les tests. Et c'est ça qui stresse beaucoup. Puis on le sait là, depuis le début. Mme McCann nous disait, il n'y a pas de trouble, on a 7000 lits, tout est beau, tout est correct, parfait. Mais ça fait longtemps qu'on le sait que masques, vêtements de protection, les stocks sont gérés hyper serrés parce qu'on voyait évidemment les cas augmenter. Puis la planète peut faire un examen de conscience. Parce que c'est la même réalité partout, là. Je regarde en France, je regarde en Italie, en Espagne, on court après les masques. Aux États-Unis, je regardais le gouverneur Cuomo hier, c'est pareil. Alors, en passant, son frère a testé positif. Et tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu venir davantage? On pourra toujours faire les post-mortem, là. Mais il y a quand même eu des, à travers le monde, des gens qui ont sonné l'alarme en disant « on ne sait pas quand, mais c'est sûr que ça va arriver ». Alors concrètement, sur le terrain ce matin, il y a donc la première ligne qui se déploie avec de moins en moins d'équipements de protection. Et vous imaginez s'il commence à y avoir des fissures dans cette première ligne de gens contaminés qui devront se placer en quarantaine, ça fait évidemment un réseau de la santé qui perd des joueurs et qui est un peu plus vulnérable. Et c'est ça qu'on veut éviter le plus possible. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, respectez les dernières consignes. Je ne comprends pas encore que ce message-là ne passe pas. Je voyais des gens qui ont été interceptés là, dans le bout de Thetford Mines, contravention de 1 000 $. Il y a des employeurs qui essaient de cacher des affaires pour ne pas, évidemment, le dire à leurs employés sur des méthodes pour se protéger. Il y a encore des gens qui vont se promener pour rien. Puis bon, le confinement, là, pour le mois d'avril, est encore plus important. Parce que là, on entre dans la période où, je le dis tout de suite, les chiffres sont élevés. On n'a pas encore atteint le pic. Et le mois d'avril va être un mois qui ne sera pas jojo en termes de nouvelles. Puis je ne dis pas ça pour être alarmiste, là. Je dis ça pour 2 raisons. Donner les faits. Et troisièmement, en fait, deuxièmement, pour vous faire comprendre l'importance de respecter les mesures de santé publique. À propos du masque, aux États-Unis, hier, des gens disaient, ben, peut-être qu'on va recommander à tout le monde de porter un masque. Écoutez le docteur Arruda qui disait peut-être. Déjà qu'on en manque, là, en passant, pour ceux qui en ont besoin vraiment en première ligne. Mais est-ce que ça donne quelque chose? Sur le plan scientifique, il n'y a rien de prouvé. Sur le plan psychologique, ça peut peut-être vous rassurer. Docteur Weiss sera avec nous tantôt. Puis peut-être même un masque artisanal là, concocté à la maison. Ça ne fait pas de tort. Normalement, on va l'utiliser pour des gens qui toussent, pour éviter qu'ils contaminent les autres. Mais peut-être que, et je trouvais l'argument d'Arruda pas fou, là, tu vois quelqu'un avec un masque, tu te tiens loin. Hein? Fait que peut-être que ça découragerait des gens de garder des rapports de proximité qui ne sont pas conseillés, qui sont même interdits actuellement. Alors, en résumé ce matin, c'est clair que les consignes de base, restez chez vous. Pour vrai, là, restez chez vous. Vous n'avez pas besoin de sortir. Deuxièmement, lavez-vous les mains. Puis gardez cette distance si vous sortez. Parce qu'on peut sortir. Là. Il y a des courses à faire quand on... Mais c'est pas le temps de faire des rassemblements. C'est pas le temps d'inviter des amis à souper, de la parenté, comme quelqu'un qui me disait hier dans un courriel. Un snowbird qui revient de Floride. Il invite toute sa famille à souper en disant « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ». Ben non, on ne fait pas ça. On va aller retrouver Marc à 6h12, des choses à nous dire. Parfait. On va regarder des cas un peu plus spécifiques. Je voyais ce matin, et ça, on risque de... Je pense pas d'ailleurs que ce soit un cas unique, là. Des préposés aux bénéficiaires qui sont rappelés au travail avant la fin de leur période d'isolement. À cause, justement, d'un manque de personnel, des gens qui ont été en contact avec des personnes, donc, contaminées, dans un centre de soins de longue durée à Shawinigan. Et ça a amené éclosion des cas. D'ailleurs, là, le foyer, si Montréal, là, c'est le foyer du Québec, là, en termes de nombre de cas, bien, les résidences pour personnes âgées, c'est encore plus vrai. Et là, il y a plein de situations, là. On gère une crise. Fait que vous avez des employés qui, par exemple, se déplacent d'un endroit à l'autre. Vous avez des employés qui travaillent, par exemple, dans un hôpital, puis sont appelés parfois à aller dans un centre de soins de longue durée. Vous comprenez un peu, on comprend que c'est pas ça qu'il faut faire, là, que c'est pas idéal, mais il y a une réalité de crise. Deuxièmement, pour ce qui est des interventions chirurgicale, là. Je répète parce qu'il y a des gens qui me posent la question, là, comment ça se fait que j'ai été repoussé. Je vous le dis, là, la pression va être maximale sur le réseau de la santé, tout le mois d'avril, minimum. Et c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a annoncé depuis hier, depuis quelques jours, à beaucoup de médecins, c'est que là, c'est que l'essentiel, vie ou mort, ça va être le critère. Ce qui peut attendre va donc attendre. Dans d'autres éléments, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de travailleurs du réseau qui sont furieux contre les pharmacies, contre le groupe Jean Coutu en particulier. Je vous donne un exemple. Je suis infirmier aux soins intensifs. J'ai plusieurs collègues infirmières qui ont été refusées dans une pharmacie Jean Coutu sous prétexte que nous étions une clientèle trop à risque pour la COVID-19. Est-ce acceptable? On va s'en souvenir. J'ai vraiment besoin d'un stress et des problèmes de plus en ce moment, surtout que ma femme est infirmière aux soins, elle aussi. Vous en pensez quoi? Bon. Ce que l'Ordre des pharmaciens dit, c'est qu'il faut évidemment exercer des contrôles à l'entrée des pharmacies pour ne pas contaminer des gens du personnel. Parce qu'il y a encore récemment des cas où des gens malades, des gens qui toussaient, se rendaient en pharmacie. J'ai vu des camionneurs se faire refuser l'accès parce qu'ils disaient la vérité, nous rentrons des États-Unis, mais on sait que dans leur cas, la quarantaine n'est pas requise. Ils font partie des services essentiels. Moi, je pense que plutôt que d'utiliser les pharmacies comme un lieu pour aller chercher ses médicaments, on devrait voir la pharmacie comme étant l'endroit où je peux appeler pour obtenir une livraison. Là, le défi est dans le cours des pharmacies, par exemple. Il faut être capable de livrer. Moi, je pense qu'on devrait dire aux gens qui, par exemple, se présentent, puis vous êtes aux soins intensifs, écoutez, dites-moi ce que vous avez besoin, mais allez-vous le chercher. Là, si on veut vraiment être un service efficace, c'est ça. Sont-ils capables? Je ne sais pas. Ont-ils les ressources? Je ne sais pas. Je comprends l'idée. Moi-même, je n'ai pas envie d'aller me promener dans une pharmacie actuellement. Là. C'est, on n'est pas là dans « je ne sais pas quoi faire », mais aller me promener dans un cosmétique où je vais aller regarder certains items. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui est essentiel? Mais on va te livrer. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Puis si on ne peut pas te livrer pour X raisons chez vous, on peut-tu dire « attends, je reviens, puis voici ». Des renouvellements en ligne pour les prescriptions, ça se fait. Et le défi d'encours des Jean Coutu, des Uniprix, de toutes les bannières, là, êtes-vous capable de donner le service de livraison? C'est ça la question. Fait que je peux comprendre un peu, puis je sais que c'est frustrant. Tu dis, je travaille fort, j'ai-tu besoin de ça, de me faire virer de bord à la porte d'une pharmacie? Réponse, non. Mais on peut-tu avoir un échange avec la personne? Là? Je comprends que tout le monde est anxieux. Là, savez-vous quoi? J'ai l'inverse. Il y a des gens qui travaillent comme ça, la sélection à la porte, là, qui se font engueuler comme du poisson pourri. C'est pas de tes affaires. Puis, tu sais, ça gueule, là. Fait que, tu sais, on peut tous se calmer un peu puis trouver une façon de faire. Même affaire pour les loyers. 1er avril aujourd'hui. Bon. Quelqu'un qui propose que les loyers soient annulés pour le mois, là, comprend qu'on est sur la planète Mars, là. Parce que les propriétaires ont des frais. Les propriétaires ont aussi des taxes à payer, hein, parce que ça n'a pas été annulé. Peut-être qu'il y a moyen de trouver une entente pour reporter un peu le paiement. Là. T'sais, je comprends, les gens n'ont pas d'argent, les gens ont perdu leur job. En principe, il y aura des revenus qui vont entrer dans les prochains jours, prochaines semaines ou plus tard. Fait qu'est-ce qu'on peut s'entendre avec son locataire pour retarder? On va parler avec des représentants de locataires et de propriétaires un peu plus tard dans l'émission. Mais on n'a pas le choix, là. C'est du jamais vu. Il faut gérer ça. Fait que tu demandes à des locataires et à des propriétaires d'être capables de s'entendre. Puis ce sont des défis pour un paquet de monde. Puis, sur le plan économique, là, il faut évidemment aussi préparer l'après-crise parce que c'est clair que tout va changer. Là. Il y a des secteurs d'activité qui vont disparaître, d'autres qui vont devenir essentiels. Et je regarde ce matin des groupes qui proposent l'achat local, un fonds commun d'entreprise. En nommer quelques-uns, là. Les brasseurs, la Boréale, Distillerie Norrois, Fenplast, Arnois Énergie, La Cage, Laitue Mirabel, les aliments à l'ester, en disant, est-ce qu'on peut collectivement se tenir un peu et dans la mesure où c'est possible d'encourager localement? Puis j'ai une pensée ce matin pour toute l'industrie agricole. Puis je comprends la pression, là, parce que tu dis, est-ce que mes employés réguliers qui viennent de l'extérieur vont finir par arriver? Est-ce que je vais être capable de produire? Je vois des serres qui sont en mode conversion pour être capable de nous alimenter en légumes et même en petits fruits là, pour la saison. Puis être capable, donc, que ça soit accessible plutôt que de compter sur l'étranger. Alors, si on peut, bien, on encourage idéalement. Puis je vois plein de petits restaurateurs là, qui offrent des menus pour emporter, des plats pour emporter, puis qui tentent de sauver leur commerce, là. Mais si on peut le faire, allons les encourager. Moi, je l'ai fait hier, puis je le sais, là, que pour ces établissements, comme pour tout le monde, là, la vie a basculé. T'sais, ça allait bien, c'était plein de réservations, puis du jour au lendemain, bang, fini. Il y en a qui travaillent fort, il y en a qui sont astucieux, il y en a qui essaient de relever les manches en disant « on y va ». Alors, je voulais insister là-dessus ce matin. Et peut-être un regard sur l'international, puis on va le faire de façon aussi plus détaillée, mais en gros, c'est sûr que les chiffres sont frappant en Europe. Quand vous dites que l'Europe, là, c'est le trois quarts des décès. En France, les mesures de confinement vont se poursuivre. Et elles sont appliquées avec encore plus de dureté qu'ici, là. Moi, personnellement, je serai encore plus sévère. Je serai encore plus dur pour les deux, trois prochaines semaines en termes de confinement. C'est comme non négociable. Si on ne veut pas affaiblir ou casser le réseau de santé. Encore là, je ne dis pas ça pour vous faire paniquer, je vous dis ça parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Et l'autre chose en terminant, si vous avez testé positif, on fait actuellement une recherche parce qu'on tente de trouver des traitements, des vaccins, des médicaments. Il y a Michel Chrétien qui travaille fort, qu'on attend des résultats, puis il y a plein d'expertises actuellement. Donc, si vous êtes admissible à participer à cette étude de clinique, il y a un numéro de téléphone, c'est le docteur Tardif de l'Institut de cardiologie, évidemment, qui pilote ça avec d'autres, là. C'est important de participer à cette recherche parce que vous avez testé positif, mais votre cas va peut-être nous amener vers une piste importante de solution. 1-877-536-6837. 1-877-536-6837. Alors voilà pour cette recherche qui est fondamentale. Puis beaucoup de gens m'écrivent en me disant « il arrive quoi ?» Bien, pour tout de suite, hier, j'ai vu une pharma annoncer qu'on était pour entrer dans une phase importante à partir du mois de septembre. Mais le vaccin, là, on n'aura pas ça avant un an, minimum. Et là, je sais qu'il y a d'autres médicaments qui sont testés. Est-ce qu'on va pouvoir les administrer en milieu hospitalier, évidemment, aux patients qui sont plus malades? Probablement. Est-ce qu'on est rendu à l'étape de les prescrire en termes de prévention? Pas du tout. Il faut que ça soit supervisé et on s'en sert déjà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a moins de cas aux soins intensifs et encore un nombre de décès toujours trop élevé, mais qui reste quand même, disons, quand on regarde le portrait global, assez prévisible. Ça fait le tour. On va faire la pause. Il est 6h24. Il n'y a rien à signaler de particulier.